Merci pour avoir agréé ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous approcher de toi pour t'adorer, pour te louer. Et tu as non seulement accueilli nos prières, mais tu nous as accueillis aussi nous-mêmes, parce que tu nous aimes. Parce que tu aimerais, Seigneur, que nous puissions te ressembler à tous égards. Tu aimerais que nous allions, Seigneur, de gloire en gloire, de transformation en transformation. Et cette transformation, ton image, cette métamorphose glorieuse, ne peut devenir une réalité pour nous que dans la mesure où nous passons plus de temps avec toi. Dans la mesure, Seigneur, où nous entrons dans ta présence, on pourrait pencher nos cœurs pour t'exprimer, ô Dieu, du fond de notre cœur, notre louange, notre adoration. Alors que nous sommes là devant ta présence, alors que nous sommes là, Seigneur, à te contempler dans toute ta gloire, en retour, ô Dieu, cette gloire qui t'environne nous transforme. Cette présence manifeste et glorieuse nous métamorphose à ton image. Oh, merci. Nous voulons demeurer dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela. Réaliser toute la place que ta parole est appelée à occuper dans nos vies. Alors que nous vivons des temps difficiles, alors que le monde dans lequel nous sommes est traversé par toutes sortes de courants philosophiques, théologiques, Seigneur, de nature à détruire notre foi, des enseignements pernicieux, odieux, que l'ennemi véhicule tout autour de nous, dans le but de nous anesthésier, Seigneur, de nous affaiblir spirituellement, moralement. Oui, dans un monde pareil, nous avons besoin plus que jamais, Seigneur, de rester attaché à la doctrine de tes apôtres, de rester attaché à l'enseignement, Seigneur, du royaume des cieux, enseignement tel que toi, tu nous l'as laissé à travers les quatre évangiles, mais aussi cet enseignement qui a été développé, qui a été amplifié par les saints apôtres et d'autres auteurs sacrés. Parle-nous, fais-nous du bien, alors que, Seigneur, nous te tendons une oreille attentive. Et en même temps, utilise ton serviteur comme un simple outil entre tes mains pour notre édification, pour notre transformation. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le nom du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur nous aide à apprécier des moments comme nous venons de les avoir, des moments qui nous permettent de nous tourner vers le Seigneur pour nous jeter dans ses bras, mais qui nous aide également à apprécier les moments où, humblement, nous nous asseyons à ses pieds, où, humblement, nous lui tendons notre oreille pour qu'il nous parle. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler du type des disciples que Jésus choisit et utilise. Nous sommes appelés à être actifs dans le royaume de Dieu. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, après l'avoir rencontré, après avoir expérimenté cette nouvelle vie en lui, eh bien, ce qu'il attend après, c'est de nous utiliser puissamment. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions aussi bien intérieures, des conditions spirituelles que nous devons absolument rencontrer. Et nous allons voir quel est le type de disciple que le Seigneur utilise, sur qui jette son dévolu, pour enfin en faire des outils entre ses mains pour l'avancement de son règne. Nous allons lire deux passages, et ces deux passages s'articulent autour de la vie d'un homme que Dieu a appelé un jour, que le Seigneur a rencontré, cet homme qui a expérimenté un changement de son identité. Nous allons voir comment cet homme et passé par des moments, oh, des moments qui auraient pu les disqualifier. Mais au-delà de ces moments difficiles, nous pouvons trouver l'amour, la patience, la compassion de notre Sauveur. Voir combien, mes amis, tout avec Dieu n'est que grâce. Et quand nous parlons de la grâce de Dieu, comme j'ai déjà eu à le souligner, nous parlons de la, comment, quand nous parlons de l'amour, de la grâce, eh bien, nous parlons de l'amour de Dieu en action. C'est ça la grâce. Ce n'est pas une force magique et impersonnelle. C'est simplement la manifestation. C'est simplement l'expression. C'est simplement cet amour profond qui vient du cœur de notre Père et qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Cet homme n'est autre que Pierre, Simon Pierre. Le premier passage, c'est Luc chapitre 22. Luc 22, à partir du verset 28 à 34. 28 à 34, nous lisons, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Nous sommes dans cette période qui va commencer, une période qu'on appelle la Passion du Christ. Et voilà ce que le Seigneur leur dit en s'adressant à eux. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et le verset 34, Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et enfin, Jean chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, à partir du verset 12, nous sommes là sur le rivage de la mer de Galilée. Le Seigneur apparaît à ses disciples à un moment où ils étaient dans l'angoisse, rongés par le chèque, rongés par le sentiment d'avoir échoué quant à leur mission d'être pêcheurs. Ils étaient partis pour pêcher, pour vivre, apporter quelque chose à la maison, mais voilà, cette nuit-là, hélas, cette nuit-là, ils vont travailler, mais en vain. Et le verset 12, Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est manifesté à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, à un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Quel type de disciple le Seigneur choisit et utilise pour sa gloire. Les deux contextes par rapport au passage que nous venons de lire. D'abord, Luc 22. Eh bien, à partir du verset 1er de Luc 22 jusqu'au chapitre 23, verset 56, nous voyons cette période que nous appelons la passion du Christ, cette période terrible dans laquelle le Seigneur va entrer, cette période où un complot va être ourdi contre lui, où il va connaître la trahison de Judas, quelqu'un qui lui était proche, mais qui va le trahir, où il va partager le dernier repas pascal, et puis il va aller à Gethsémané, et là il va être arrêté. Après l'arrestation, c'est la comparution devant le Sanhédrin, et après la comparution, c'est la condamnation, et après la condamnation, c'est sa crucifixion. Voilà ce qu'on appelle la passion du Christ. Et le contexte de Jean 21, c'est que nous sommes là sur le rivage de la mer de Galilée. Sept disciples dont Pierre avaient décidé la veille d'aller pêcher. Et ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont connu une nuit d'échec, une nuit d'épuisement. Une nuit où leurs efforts n'ont pas été récompensés. Une nuit de déception. Sans rien prendre cette nuit-là. Alors que nous savons très bien que la nuit est le moment le plus favorable, mes amis, pour la pêche. Mais là, malgré leur expérience, malgré toutes leurs compétences en matière de pêche, ils ont travaillé en vain. Jusqu'à ce qu'après cette nuit-là, le matin de gloire arrive. Là, sur le rivage, le Seigneur leur apparaît. Et avec son apparition, avec sa manifestation, eh bien, tout va changer, alléluia. Ils vont assister à un miracle extraordinaire. Ils vont pêcher sur ses directives en disant, voilà, jetez le filet par là et vous prendrez deux poissons. C'est ce qui va arriver. Mes amis, en tant que disciples du Christ, en tant qu'hommes et femmes qui un jour avaient pris la résolution de confier nos vies à Christ, au Seigneur, eh bien nous sommes appelés à nous rendre disponibles en vue d'être utilisés comme un outil dans son royaume, utilisés pour l'avancement de son œuvre de salut, c'est-à-dire amener le message auprès de ceux qui sont perdus, de tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, l'avancement de son règne par la délivrance des captifs, de tous ceux qui sont sous l'emprise des puissances démoniaques, tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre par l'incrédulité, pour la guérison des malades, bref, pour une démonstration de puissance de la personne et de l'œuvre de Christ. Alléluia et gloire à Dieu. C'est donc notre vocation en tant que disciples, d'être utilisés. Nous sommes la main, nous sommes les pieds, nous sommes les yeux du Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté ici-bas. Et cet accomplissement commence d'abord et avant tout par le salut des perdus. Alléluia. Et puis ensuite, tout ce qui s'ensuit, la délivrance de tous ceux qui sont esclaves du diable, esclaves des instincts pervertis de la chair, esclaves de toutes sortes de choses terribles qui les intoxiquent. Et la question que l'on peut se poser, puisque nous sommes appelés à être des outils entre ses mains, question que l'on peut se poser, et ce en rapport avec cette vocation, est celle de savoir quel type de disciple le Seigneur choisit et utilise pour ça, pour sa gloire. Eh bien, à cette question, j'aimerais d'emblée vous dire, frères et sœurs, mais dire à moi-même, vous dire à vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, que personne, mais alors personne, n'est capable par ses propres efforts d'accomplir la volonté de Dieu. Quelle que soit notre bonne volonté, Quelles que soient les dispositions de nos cœurs, il est important que nous le comprenions qu'aucun homme sur cette terre est en mesure d'entrer dans la pensée de Dieu, ensuite de marcher dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre, excusez-moi, 2 Corinthiens 3 verset 5 à 6, il dit, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a horreur de l'orgueil, a horreur de la grandiloquence, a horreur du syndrome du Brice dont souffrent beaucoup d'entre nous. Parce que tout est grâce. Alléluia. Ce que nous sommes, comme j'ai l'habitude de le dire, si tant est que nous soyons quelque chose. Ce que nous avons, si tant est que nous ayons quelque chose, tout cela est le produit de la grâce de Dieu. Nous n'avons donc aucune raison de redire le coup. Aucune raison de croire que quelque part, si quelque chose s'est passé, nous y serions pour quelque chose. Il n'y a rien en nous qui nous qualifie et qui nous rend capables de marcher à la suite du Seigneur. Il n'y a rien en nous, mes amis, qui nous qualifie et nous rend capables d'être des outils entre les mains du Seigneur. Le Seigneur lui-même déclare par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 55, vous connaissez ce passage, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevés au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est impossible par nous-mêmes de pouvoir, mes amis, entrer dans la pensée de Dieu, car sa pensée est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Personne ne peut, par ses propres efforts, par ses compétences, quelles qu'elles soient, marcher dans les voies du Seigneur. Puisqu'il en est ainsi, alors nous avons besoin de lui. C'est là que toute la notion de la grâce, telle que la Bible, eh bien, nous l'enseigne, devient plus qu'indispensable. Gloire à Dieu. Il est donc de la plus haute importance que nous comprenions une chose. C'est que l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'organisation politico-religieuse, je ne parle pas des confessions dont certaines, eh bien, nagent dans l'idolâtrie, des confessions qui prétendent être le mouvement du Christ, alors qu'à leur tête, c'est un homme devant qui on plie ses genoux, on fait de la génuflexion. Voyez-vous, on ne peut pas l'approcher comme ça. Il faut se mettre à genoux pour approcher la personne. Et la personne qu'on approche n'est qu'un vase de terre animé par l'Esprit du Seigneur. Nous devons combattre ces choses. Absolument. La génuflexion, le fait de plier ce genou, mes amis, le fait de s'agenouiller véritablement revient à Dieu et à Dieu seul. Mais aujourd'hui, pour diverses raisons, pour se rendre populaire, aujourd'hui pour avoir la sympathie de tel ou tel autre chef religieux, certains sont prêts à se compromettre. Hélas, hélas. Oui, l'Église de Jésus, celle qu'il est en train de bâtir par son esprit, et ce au moyen de sa parole, cette Église-là, écoutez-moi bien, cette Église-là est la communauté des incapables pardonnés et rendus capables par sa grâce. Gloire à Dieu. C'est la communauté des non-qualifiés que lui qualifie par sa grâce. Oh, alléluia. Tout est grâce. Absolument tout. Il est donc important que nous nous rappelions cette vérité, car beaucoup d'entre nous, avec le temps, après avoir fait telle ou telle autre expérience avec Dieu, après autant d'années de cheminement avec Dieu, après avoir expérimenté certaines choses avec le Seigneur, après de longs moments de jeûne, on peut expérimenter beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous, mes amis, ont fini par développer une haute opinion d'eux-mêmes, pensant qu'il suffit simplement de jeûner. Il suffit simplement de prendre des bonnes résolutions spirituelles qui vont dans le sens de la volonté de Dieu, pensant qu'il suffit simplement d'avoir du sel pour le Seigneur, avoir de la passion pour lui, et le tout sous-tendu par des proclamations de la parole de Dieu pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Non, Pierre le comprendra plus tard, mais c'est assez dépend. Oh combien, mes amis, et vous devez certainement connaître de gens dans votre entourage, combien de chrétiens, combien d'hommes et de femmes qui, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir fait des confessions extraordinaires, après s'être engagé vis-à-vis de lui en disant, Seigneur, je te confie ma vie. Je voudrais te rester fidèle jusqu'au bout. Seigneur, je suis encore célibataire. Je voudrais rester chaste jusqu'au jour du mariage. Je suis encore pur. Je me réserve pour l'homme ou la femme de ma vie. Combien plus tard, malgré ses débuts, cette manière tonitruante de commencer la vie avec le Seigneur, combien on finit par aller à l'encontre de l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis du Seigneur, n'est-ce pas? Combien se sont retrouvés à faire des choses qui autrefois y dénonçaient avec force? Ils ont fini par renier le Seigneur. Comment est-ce possible? Mes amis, avec l'homme tout est possible, mais dans le mauvais sens. Oui, Pierre avait commencé sa vie de manière tonitruante. Rappelez-vous que c'est son frère André qui l'avait conduit à Christ, au Seigneur. Et aussitôt que Jésus a vu Simon, le frère d'André, eh bien les choses parurent claires, que le Seigneur avait un projet pour Pierre, pour Simon, qui n'avait rien à voir pour son frère André. Voyez-vous? Et c'est là qu'il changea son nom. Il dit, tu es Simon, mais désormais, tu seras Cephas, c'est-à-dire Pierre, rocher. Oh, alléluia! Quelle façon extraordinaire! Voir son identité être changée, aussitôt qu'on vient de rencontrer le Seigneur. Oui, ce fut le cas de Simon Pierre. Et nous allons aller très rapidement la rencontre de cet homme, là sur le rivage de la mer de Galilée, là sur la plage de cette mer, ce matin-là. Ce matin-là, après une nuit terrible, comme je l'ai dit. Ce matin-là, après une nuit angoissante, une nuit d'échec, où lui et ses amis n'avaient rien pris comme poisson. Ils avaient travaillé en vain. Et puis le Seigneur, le matin arrive, oh formidable, qu'est-ce que soit la nuit que nous connaissons aujourd'hui, faisons-lui confiance, car avec lui le matin de gloire finira toujours par venir, alléluia. Voilà que le Seigneur leur apparaît, le Seigneur se manifeste là, sur les rivages de la mer de Galilée, c'est le miracle. En quelques instants, ils vont pêcher 153 gros poissons. Oh, gloire au Seigneur. Un véritable miracle. Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur avait préparé un petit déjeuner pour eux. Ils vont manger le petit déjeuner. Et après ce petit déjeuner, le Seigneur se tourne vers Pierre et demande à Pierre pour la troisième fois s'il aimait. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Au verset 17. M'aimes-tu pour la troisième fois? Nous voyons que Pierre est attristé, à juste titre. Car pour la troisième fois, Le Seigneur lui demande s'il aimait. Il avait déjà répondu par oui les deux premières fois, n'est-ce pas? Il avait répondu de tout son cœur, « Seigneur, je t'aime. Tu le sais, je t'aime. » Mais que pouvait-il dire encore de plus, lui, Pierre? Pour la troisième fois, le voilà triste. Le Seigneur lui pose trois fois cette question. Eh bien, avec ces questions, le Seigneur met le doigt sur une plaie qui était encore fraîche dans son cœur. Quand nous lisons ce récit, nous ne pouvons pas croire qu'il y a seulement quelques jours, c'était encore une nuit terrible, cet homme avait renié son maître, n'est-ce pas? Oui, Jésus venait d'être arrêté. Et là, Pierre va tomber plus bas. Au moment même où son sauveur, au moment même où son Seigneur passe par des moments difficiles, alors qu'il est rejeté, alors qu'il est humilié, alors qu'il est en train de comparaître injustement devant le Sanhédrin, nous voyons que Pierre va nier même connaître Jésus. Je voudrais que nous puissions un tout petit peu nous arrêter là. Il nie connaître le Seigneur. Il nie être son disciple. Comment est-ce possible? Et pourtant, le Seigneur lui avait dit. Et pourtant, le Seigneur avait prophétisé. Et pourtant, le Seigneur avait prédit qu'il allait faire cela. Qu'il allait le renier. Dans Luc 22, 33, 34, nous l'avons lu. Seigneur, lui dit Pierre, écoutez, Pierre, ce qu'il dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et... Voilà. C'était un bon désir, oui ou non? Et il était sincère, voyez-vous? Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Le Seigneur le regarde, ils étaient tous ensemble lors de ce repas de Pâques, il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Vous vous rendez compte? Il avait dit. Pierre n'a pas cru. Voyez-vous? Oui, il était sincère. En disant cela, Seigneur, je suis prêt à t'accompagner partout, que ce soit en prison ou même à la mort. En disant cela, Pierre était sincère. Ce n'était pas de l'esbrouf, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ce n'était pas des propos prétentieux. Pas du tout, ce n'était pas de l'esbrouf. Il était sincère. Il dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'au bout. Quelle belle confession. Ce n'était pas une manière de se mettre en évidence. Voyez-vous, pour que les autres disent, oh là là, ça c'est un homme résolu. Voyez-vous, alors que d'autres étaient là, chacun essayait de méditer, après qu'il leur dit, voilà, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme du blé, mais j'ai prié, etc. Mais lui parle. Voyez-vous, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Belle confession, belle aspiration, n'est-ce pas? Ah oui, il n'y a pas de plus grande aspiration, d'aspiration aussi noble que celle de vouloir être avec le Seigneur jusqu'au bout. Et même de payer le prix de sa vie dans cet engagement pour lui, dans cet amour qu'on a pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il connaîtra plus tard. Voyez. En disant cela, mes amis, Pierre ne se rendait absolument pas compte de la profondeur de sa faiblesse. Oh, alléluia. La profondeur de sa faiblesse. Certes, il avait déjà eu beaucoup d'expérience avec Dieu, avec le Seigneur, mais il ne savait pas ce qu'il y avait en lui. Combien il était vulnérable. Il n'était pas conscient de sa propre faiblesse. Et cette nuit-là, alors que Jésus faisait face au Sanhédrin, après avoir été arrêté là en Gethsémané, Pierre n'a même pas réussi à faire face à une simple servante. Vous vous rendez compte? Lui qui avait dit, je te suivrai jusqu'au bout. Dans Jean 18, verset 17. Alors la servante nous dit la parole. La servante gardienne de la porte dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Écoutez la réponse de Pierre. Comment est-ce possible? Je n'en suis pas. Madame, vous devez certainement vous tromper. Je ne suis pas disciple de cet homme. Je ne le connais même pas. Devant une femme, devant la servante. Et après cela, si vous lisez, eh bien, la troisième fois, le coq va chanter. Et Pierre va se souvenir de la parole que le Seigneur lui avait donnée. Et là, il est brisé. Et là, il sort et il pleure amèrement. Une nuit terrible. Une plaie vient de s'ouvrir. Comment est-ce possible? J'ai tout laissé pour lui. Tout le monde savait que je suis son disciple. J'ai prêché cette bonne nouvelle. J'ai vu des miracles. Je lui ai dit, j'étais prêt de le suivre, que ce soit en prison ou même à la mort. Mais voilà, je viens de le renier. S'efface, lui Pierre. Cette nuit-là, mes amis, le rocher s'est fissuré de toutes parts. Pierre n'était pas ce qu'il croyait être. Alléluia. Oui, il s'appelait Pierre, il s'appelait Rocher. Et il a cru que le simple fait d'être le rocher suffisait. Mais cette nuit-là, le rocher s'est fissuré de toutes parts. Il a dû certainement se dire, mais on m'appelle Pierre, je suis le rocher. Mais comment expliquer que ce rocher n'a pas pu tenir, faire face? Le rocher s'est fissuré. Alors qui suis-je? Si je ne suis pas ce rocher-là, qui suis-je alors? Eh bien, l'homme, Pierre, ne s'était jamais senti aussi peu sûr de lui. Voyez-vous? Il réalise que finalement, il avait une très haute opinion de lui-même. Il avait une trop grande assurance en lui. Il avait oublié qu'il avait des faiblesses, alors même qu'il s'appelait Pierre. Il était faible, il était comme de l'argile, alors même qu'il était appelé rocher. Ses faces, Pierre. Heureusement, il y a eu ce matin-là. Ce matin-là, quand Jésus lui demanda pour la troisième fois s'il aimait Pierre, Pierre est triste. Oui, triste. Pourquoi est-il triste? Il a dû certainement se dire qu'il avait peut-être perdu la confiance de son sauveur. N'est-ce pas? Oui, je l'avais nié. Peut-être qu'il n'a plus confiance en moi. Il m'a posé une première fois cette question, m'aimes-tu? Je lui ai dit oui. Il m'a posé une deuxième fois, je lui ai dit oui. Et voilà qu'il me pose pour la troisième fois. Certainement qu'il n'a plus confiance en moi. Certainement que je n'ai plus de place auprès de lui. J'ai échoué. C'est peut-être à cause de mon échec. J'ai chuté. C'est peut-être à cause de mon échec, de ma chute. Mais malgré cette chute, Pierre aimait vraiment Jésus. Alléluia. Malgré sa chute, Malgré son reniement, Pierre aimait véritablement Jésus. Il était sincère en répondant par oui aux questions du Seigneur. Puisqu'il était sincère, puisqu'il savait au plus profond de lui-même, qu'il aimait le Seigneur, eh bien, tout ce qu'il pouvait faire à présent, après la troisième question, c'était d'en appeler à l'omniscience du Seigneur. C'était d'en appeler au fait que Jésus connaît toutes choses, que Jésus sait toutes choses. C'est là qu'il lui dit au verset 27 de Jean, chapitre 21. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Oh, alléluia. « Tu sais que je t'aime. » Il fait appel à l'omniscience du Seigneur. Mais Jésus le savait. Mais Jésus savait que Pierre l'aimait. Et en lui posant ces trois questions, Jésus ne mettait pas en doute l'amour de Pierre pour lui. Mais alors pourquoi lui a-t-il posé trois fois cette question, Simon, m'aimes-tu? Eh bien, mes amis, avec ces trois questions, le Seigneur donne à Pierre l'occasion de revenir à lui. Il donne à Pierre l'occasion de confesser son amour pour Jésus autant de fois que Pierre l'avait renié. Trois fois il avait dit, je ne connais pas cet homme. Trois fois il avait dit, je ne suis pas son disciple. Trois fois le Seigneur lui pose la question, m'aimes-tu? Trois fois il répond, il lui donne l'occasion de revenir pour être restauré. Il a besoin d'être restauré intérieurement. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de connaître un autre versant de la personnalité de son Sauveur. Comprendre ce que c'est la grâce. Oh, alléluia. Ce que c'est l'amour. L'homme à qui le Seigneur demande s'il aimait, eh bien, faisait partie de 12 que le Seigneur avait choisi comme apôtres et à qui il avait donné le pouvoir, la puissance de prêcher le royaume de Dieu, mais aussi de prier pour les malades, mais aussi de délivrer les captifs du diable, oui ou non? Ils étaient tous partis, ils ont eu à expérimenter des miracles. Mais cette fois-ci, ce n'est plus par devoir qu'il doit agir. Cette fois-ci, il doit faire le travail par amour. Oh, alléluia. L'amour, c'est-à-dire la grâce en action. Pierre, paie mes agneaux. Pierre, sois le berger de mes brebis. Pierre, prends soin de mes brebis. Par amour. Oh, alléluia. Trois fois. Trois fois, Pierre va confesser son amour pour Jésus. Après l'avoir renié, combien de fois? Trois fois. Mes amis, grâce insondable de notre Sauveur. Grâce bouleversante de notre Dieu. Comment expliquer ça? Qu'est-ce que vous et moi nous aurions fait? Après qu'il ait nié le Seigneur. Après qu'il soit tombé au troisième sous-sol du péché. Renier le Seigneur, dire qu'il ne le connaissait même pas. Pour nous, nous aurions tout de suite tiré la conclusion, il est disqualifié. Oui ou non? Eh oui. Pierre avait quelque chose, une blessure. Pierre se reprochait. Mais il était temps que Pierre comprenne que le Seigneur le voyait au-delà de sa chute. Le Seigneur le voyait au-delà de son reniement. Il est important qu'il le comprenne. Ensuite, il lui dit, Pierre, suis-moi. Ne te laisse pas arrêter par ton passé. Le passé est passé. Oh, alléluia. Le passé est passé. Pierre, suis-moi. Tu as encore ma confiance. Je t'ai pardonné. Maintenant, je restaure ta vie. Il est le restaurateur de ceux qui ont échoué. Il y a des gens ce matin qui sont dans le cas de Pierre. Vous avez fait des promesses au Seigneur, vous vous êtes engagé. Vous avez dit, Seigneur, je vous suivrai jusqu'au bout. Vous avez expérimenté son amour. Vous avez compris que son amour pour lui passait par une nuit d'obéissance à sa parole. Fidèle en tout. Et puis un jour, c'est la chute. Et puis un jour, sans comprendre comment et pourquoi, vous êtes retrouvé à faire des choses que le Seigneur reprouve. Et avec ça, il y a la culpabilité qui est là. Vous avez de la peine à vous relever. Votre passé vous obsède. Mes amis, l'apôtre Jacques écrira plus tard dans Jacques 3, verset 2, « Nous bronchons, c'est-à-dire nous trébuchons tous de plusieurs manières. » N'est-ce pas? Il n'y a personne qui est à l'abri. Personne ne peut dire que depuis que Jésus est dans ma vie, j'ai toujours une vie ascendante. Une vie qui va crescendo. Pas de colère. Parfait. Voyez-vous? Personne. Jacques le dit. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Et quand cela arrive, mes amis, quand cela arrive, nous réalisons que nous ignorions nos faiblesses. Nous pensions être forts parce que nous menions une vie de jeûne, de ceci, de cela. Et avec le temps, nous sommes même devenus des juges des autres. Voyez-vous? Et quand on apprenait, quand on apprend que tel frère passe par des moments difficiles, sa femme est partie ou son mari est parti, vous avez toujours cherché à comprendre quel péché cette femme avait fait ou cet homme pour que cela lui arrive. Parce que vous vous sentiez immunisé contre le péché. Vous sentiez fort. Ne suis-je pas le rocher? Avec arrogance, avec orgueil, avec morgue, vous marchiez comme un pan jusqu'au jour où quelque chose vous arrive. Vous retrouvez les pieds en l'air. Là, vous réalisez que vous n'étiez pas mieux. Vous n'étiez pas mieux que ceux que vous pointez du doigt. Mes amis, la culpabilité liée aux échecs et aux péchés du passé peut nous hanter, peut nous obséder et nous paralyser de bien de manières. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à se relever parce que ils sont tombés entre les mains de certains prédicateurs ou de certains pasteurs qui leur ont fait croire que c'était fini pour eux. C'est jamais fini. Tant que lui est assis sur le trône de la grâce, tant que son esprit est à l'œuvre, il y a encore moyen que la personne revienne dans la repentance. Oh, alléluia! Il y a moyen que le Seigneur le récupère, cet homme-là, ou la récupère, cette femme-là. C'est là que Satan intervient, pour nous rappeler, mes amis, constamment, nos échecs, nos chutes, nous enchaîner par les liens de la condamnation, nous rappeler qu'après tout, nous ne valons rien. Nous dire, tu vois, tu étais là, Jésus. Je te donne ma vie. Moi, j'ai observé. Jésus, tu vois, tu es où là? Regarde, tu ne vois rien. De toutes les filles de Lamborne, tu es nul. Tu n'as pas tenu ton engagement. Tu ne vois absolument rien. Et toi, tu ouvres la porte dans tout ça, et là l'ennemi se met à accomplir sa sale besogne de destruction, de condamnation. Tu ne vaux rien, et toi tu l'écoutes, et puis tu pleures. À chaque fois tu viens, tu repars en pleurant, et puis il revient à la charge. Il commence même à te rappeler certaines choses du passé pour lesquelles tu t'étais déjà repenti. Dis-moi, dans le passé, tu étais un petit voyou. Dans le passé, voilà ce que tu as fait. Voleur. Dans le passé, tu as été criminel. Tu as versé le sang, etc. Et là, sous le poids de la culpabilité, tu te sens écrasé. Tu te dis, ça sert à quoi? Je suis bon pour la mort et pour l'enfer. Pendant que le diable cherche par nous lier, cherche à nous lier par les liens de la condamnation, pendant que le diable nous rappelle constamment nos échecs, nos chutes, que nous ne valons absolument rien, que nous n'avons plus de place auprès du Seigneur, qui ne nous aime plus. Voyez-vous, Jésus, lui, cherche à nous rendre complètement libres. Il cherche à nous délivrer de nos échecs du passé. Il cherche à nous délivrer de toute condamnation. Lui vient vers nous. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Il fallait une guérison intérieure. Et il lui dira, suis la plus belle invitation qu'un homme puisse recevoir ici-bas. Cette invitation est adressée à quelqu'un qui avait chuté, à quelqu'un qui l'avait renié, à quelqu'un qui était tombé. Mes amis, s'il y a une leçon avant de terminer, nous continuerons la fois prochaine, c'est que Jésus nous voit au-delà de nos échecs, au-delà de nos doutes. Il nous connaît mieux que quiconque. Il est toujours là. Rappelez-vous de Matthieu 28. J'en ai touché un mot le vendredi. Matthieu 28, versets 16 à 18. Il nous a dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Donc, ils ont obéi. Ils sont là où le Seigneur le voulait. Et là, le Seigneur leur apparaît. Et la suite, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Oh, alléluia. Quelle réponse merveilleuse. Mais écoutez la suite. Il y a un mais. Il y a un mais. Mais quelques-uns eurent de doute. Quelques-uns. Ils étaient 11. 11. Et la parole de Dieu ne nous dit pas combien de ces 11 avaient eu de doutes, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que parmi eux, il y avait ceux qui avaient de doutes, car le Seigneur connaît nos cœurs mieux que qui que ce soit. Alléluia. Combien avaient de doutes? Eh bien, cette question n'est pas importante. En tous les cas, elle n'est pas importante. Ce qui est important, écoutez-moi bien, c'est l'attitude du Seigneur envers les 11. Il n'a pas exclu ceux qui avaient de doutes. Il n'a pas dit, vous, allez, allez-y. Bokende. Katuga. Oust. Non. Encore une fois, la grâce. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus s'approcha. Il ne s'est pas approché seulement de ceux qui étaient jusque-là irréprochables. Il s'est approché des 11 et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Allez! Cette invitation s'adresse aussi à ceux qui avaient des doutes. Mais le Seigneur sait qu'il est capable, malgré nos doutes, un jour de nous faire ressembler à lui. Oh, alléluia! Il s'est approché d'eux et il s'approche de nous. Malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, il nous voit au-delà de nos faiblesses. Alors que nos échecs ne nous désignent pas, que nos échecs ne nous définissent point. N'est-ce pas? Que toute notre définition soit le reflet de la présence du Christ en nous. Gloire à Dieu. Dieu nous voit au-delà. Quel sauveur merveilleux nous avons. Quel sauveur extraordinaire nous avons. Quel amour profond. Alors que pour nous, Pierre aurait été disqualifié pour l'éternité. Alors que pour nous, Pierre, c'était fini. On aurait même enlevé le nom du commandement. Un rocher qui s'est fissuré, comment continuer à l'appeler rocher? Il est l'argile. Argile, viens. Oui ou non? Mais Dieu nous voit toujours au-delà de nos chutes. Oh, alléluia. Alors ne désespère pas, mon frère, ma sœur. Ce sauveur est encore le même aujourd'hui. Malgré tout ce qui t'est arrivé, ce matin, il est là. Je vous prie d'incliner vos têtes dans la prière. Ce matin, il est là pour te restaurer. Ce matin, il est là pour te rassurer, pour te dire que son pardon est toujours à ta disposition, que tu peux aujourd'hui lui demander pardon et repartir sur de nouvelles bases. Si tel est ton cas, rongé depuis beaucoup de temps ou même peu de temps par ces sentiments de culpabilité, de n'avoir pas honoré le Seigneur, de n'avoir pas tenu ton engagement, de l'avoir trompé d'une manière ou d'une autre, de l'avoir renié par ce que tu as fait, car ce que tu as fait est contraire à sa volonté. Si tel est ton cas, je te demanderai simplement de te mettre debout et nous allons prier pour que ce Sauveur qui a restauré Pierre puisse te restaurer, t'accorder le pardon, te restaurer et te donner de nouveau l'occasion de confesser l'amour que tu avais expérimenté avant ta chute, avant de le renier. Merci pour les personnes qui s'élèvent. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Voyez-vous, nous trébuchons tous, nous l'avons lu, de plusieurs manières. Mais l'amour de Dieu est là. Le Seigneur est là, il veut pardonner. Le Seigneur est là, il veut restaurer. Le Seigneur est là, il veut, mes amis, nous guérir intérieurement. Et puis ensuite, il aimerait que nous entendions cette voix qui nous dise, « Suis-moi. Ne laisse pas le diable te paralyser par ton passé. Ne laisse pas le diable te décourager. Ne regarde pas tes faiblesses ni à tes doutes, mais regarde à moi, dit le Seigneur. Mon amour est profond, mon amour pour toi. » Nous allons lever nos mains et je vais prier pour tous ceux qui se sont mis debout. Seigneur, je voudrais d'abord te dire merci pour le message de ta parole. Comme ta parole le déclare, nous trébuchons tous, nous bronchons tous de plusieurs manières. Comme Pierre, ô Dieu, qui malgré sa bonne volonté de te suivre jusqu'au bout, n'avait pas pu honorer sa parole, n'avait pas pu honorer son engagement, ses bien-aimés ici debout se rendent compte qu'eux aussi ont connu des moments difficiles dans leur vie. Et depuis, Seigneur, l'ennemi vient leur ressasser tous ces échecs constamment, leur dire qu'ils ne valent plus rien, qu'ils sont désormais indignes de ton amour. Mais ce matin, tu leur en parlais. Oh Dieu, accorde leur pardon. Accorde-leur ton pardon, Seigneur. Restaure-les au nom de Jésus. Nous bannissons, Seigneur, tous ces sentiments de culpabilité, détruisons au nom de Jésus. Que désormais ils saisissent la main que tu leur tends, qu'ils retrouvent de nouveau ton amour, ta grâce, et qu'ils te suivent. Merci, Maître, pour cette œuvre de régénération, de restauration. N'es-tu pas le restaurateur des incapables qui ont échoué? N'es-tu pas le restaurateur de ceux qui n'ont pas pu tenir leur engagement envers toi? Eh bien, que ce travail s'accomplisse maintenant dans la vie de toutes ces personnes. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu.